une professeure et ses élèves du lycée Astier, des témoignages d'expérience et des professionnels qui vous donnent des pistes pour l'orientation. Reportage sur InfoRC.
Donc je suis Alexandra Coquille, je suis enseignante en lycée professionnel et je suis également adhérente donc de l'association CARD. CARD, ça veut dire Citoyenneté Ardèche Europe. Voilà, donc nous sommes là pour aider les citoyens et promouvoir l'Europe. Et du coup, avec un de mes collègues au collège et au vu de notre quotidien auprès des élèves, on a décidé donc d'organiser ce forum jeunesse 07, le premier, pour motiver et redonner espoir à nos jeunes ardéchois et ardéchoises.
Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue avec nous pour ce premier forum jeunesse « Tu feras quoi dans 2 ans ?» Un forum 100% digital avec l'association CARD. Donc l'association CARD, ça veut dire Citoyenneté Ardèche Europe. L'objectif est de redonner confiance et d'apporter des clés pour bien s'orienter, de redonner espoir à travers des témoignages des talents d'Ardèche. Voilà, donc nous allons débuter ce forum avec Aurore Denisot.
Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis la directrice fondatrice de l'association Kairos Orientation. Ma volonté de travail au quotidien avec mes équipes, à la fois de psychologues et de conseillers comme moi-même, c'est de pouvoir apporter un regard et un accompagnement à cette orientation scolaire. Je dirais que le mot-clé, qu'on soit collégien, qu'on soit lycéen, qu'on soit étudiant, pour pouvoir aller vers une orientation scolaire qui me corresponde, nous, en tous les cas, chez Kairos Orientation, on part du principe que c'est bien se connaître. Et puis, également pour nos collégiens, si je ne peux pas aller dans une seconde générale et technologique et qu'on m'oriente vers un bac professionnel, pareil, il n'y a pas de fatalité. Moi, je pars du principe qu'un bac pro, lorsqu'il est bien choisi, il ne doit pas être subi. Donc, par conséquent, aujourd'hui, il y a de très belles expériences, il y a de très beaux couloirs de bac professionnel où on peut très bien s'épanouir et on peut également poursuivre ses études. Je voudrais aussi vous parler de l'alternance. C'est également un moyen qui permet aux jeunes de pouvoir s'insérer et rentrer dans la vie active. Alors, l'attractivité, c'est bien sûr le côté pécunier, puisqu'on perçoit une petite rémunération, mais c'est surtout et également très important pour l'insertion dans la vie professionnelle.
On a une question de Jean-Paul Marujol.
Oui, ma question est toute simple. Comment situez-vous votre intervention par rapport à celle des CIO dans les établissements scolaires?
Les CIO ont peut-être une autre approche par rapport au conseil et à l'accompagnement qu'il peut y avoir avec nous, ce regard de ce qui se passe et des attentes vis-à-vis du monde de l'entreprise.
Qui finance vos interventions, vos prestations?
Notre association est purement autofinancée. J'en suis moi-même la directrice fondatrice et c'est moi-même qui l'ai créée et qui l'autofinance.
Florence avait une question également.
Oui, en fait, est-ce que vous faites aussi des classes passerelles? Que vous intervenez au niveau d'un élève, enfin d'un jeune qui voudrait, il veut faire un CAP, puis en fait il se rend compte qu'il serait peut-être mieux dans un autre domaine, et du coup, au lieu de faire une année en plus, on le met directement, on fait une classe passerelle.
Oui, on intervient sur tout type de profil. Je tiens à préciser qu'il est aussi très intéressant chez nous de pouvoir également accompagner du public qui peut être aussi en situation de handicap. Nous avons également accompagné du public à profil autistique également. Et donc, des profils comme le vôtre, Malarme, oui, bien sûr, ça fait partie intégrante de nos accompagnements. Il n'y a pas de distinction chez nous.
Jérôme, peut-être pour croiser un petit peu les expériences aussi par rapport à ce que Kairos propose.
Donc moi, je me présente, je suis prof de collège, je suis prof en histoire géo et je suis prof principal de 3e. Donc voilà, moi, ce dont je devais vous parler, c'est du collège. Donc nous, on est dans le cadre d'un collège unique, c'est-à-dire qu'on prend la suite de l'école primaire. Donc si le collège est unique, ça veut dire qu'il est pour tout le monde et qu'on a peu d'orientation possible avant la 3e, qui est le premier réel palier d'orientation. Alors, une chose peut-être importante à dire pour les parents, puisque c'est évident pour tout le monde dans l'éducation nationale, mais j'ai l'impression que c'est pas évident encore pour le grand public, ce qui est dommage, c'est que on ne redouble plus au collège. Tout le monde passe, qu'on ait les compétences ou pas, la vocation d'un élève, c'est de passer dans la classe supérieure. Au collège, on ne fonctionne plus par notes, mais par compétences. En fonction des compétences, on obtient des points. Alors, c'est absolument bête et méchant, c'est-à-dire que à telle compétence, on attribue tant de points, et les élèves qui ont le plus de points sont classés les premiers pour l'affectation dans tel ou tel bac pro, selon les établissements. Et informatiquement, il y a une liste qui est établie, et donc il y a 15 places, donc il va y avoir 15 élèves affectés, plus quelques places en liste d'attente. Alors, on est dans une situation qui peut être paradoxale parce que les taux de pression sont très différents selon les bacs pro. C'est-à-dire qu'on a des bacs pro qui, pour lesquels c'est très facile d'aller. Ce qui pose problème d'ailleurs parce que les élèves font des vœux et souvent, ce qu'on fait en sorte, c'est qu'on fait mettre aux élèves un bac pro avec un fort taux de pression pour être sûr d'avoir quelque chose qui leur convienne à peu près après la seconde, mais du coup, parfois, certains se retrouvent affectés sur quelque chose qui leur convienne qu'à peu près, ou se retrouvent affectés là parce qu'ils n'avaient fait qu'un vœu, ils ne sont pas pris sur leur premier vœu, ils vont où il y a de la place. Et donc là, c'est souvent des situations catastrophiques d'orientation, parce que ils n'ont aucun intérêt pour le bac pro, pour le métier vers lequel ils vont. J'aurais dû préciser que pour les secondes, on fonctionne par famille de métier. Mais si la famille de métier ne les intéresse pas du tout, si c'est des élèves qui voulaient partir, je ne sais pas, vers quelque chose autour de l'usinage et qui se retrouvent dans le bâtiment, on pense que ça ne les intéresse pas du tout. Et là, c'est souvent catastrophique en seconde. Alors, je reprends le fil. Sur certains bacs pro, il y a des forts taux de pression. Et on a des élèves qui peuvent aller en seconde jetée, qui ont éventuellement l'avis favorable du conseil de classe pour aller en seconde jetée, mais qui n'obtiennent pas le bac pro qu'ils ont choisi parce que le taux de pression est très important.
Et c'est important parce que c'est là aussi où le rôle de Kairos intervient, j'imagine.
Oui, c'est là aussi où on peut intervenir concernant les doutes, les préoccupations du jeune et de sa famille, hein, parce que très très souvent et très généralement, les familles sont aussi très impactées sur le fait que ce soit difficile pour eux de porter leur jeune et de pouvoir leur apporter conseil par rapport à ces choix d'orientation. Il y en a certains même d'entre eux hein, qui nous disent « j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça ne me corresponde pas, et si ça ne me correspond pas, j'ai peur de décevoir ». Donc voilà, donc ça reste des périodes délicates.
Pour faire le choix, oui, ce choix est compliqué, ce choix est difficile. Alors, il y a traditionnellement des portes ouvertes. Bon, dommage, cette année, ce n'est pas possible. Alors, beaucoup d'établissements organisent des portes ouvertes virtuelles. Bon, ça reste intéressant, je pense. Beaucoup de lycées font aussi ce qu'ils appellent des mini-stages. Et ça, c'est toujours possible. C'est-à-dire que leur professeur de troisième les inscrit pour aller passer une journée dans l'établissement. Et ben on est dans une classe de seconde pro et on voit ce qu'on fait, on voit les ateliers, on visite l'établissement et je pense que c'est vraiment le plus intéressant. Ce qui est dommage, je pense, ça peut paraître étonnant, mais il n'y a que le pro qui fait des mini-stages. Mais les mini-stages, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui permet aux élèves souvent de confirmer ou d'infirmer leur choix.
C'est effectivement très juste. Je recommande aussi des profils effectivement de troisième ou de seconde et même dans le couloir des premières et des terminales d'être curieux et de s'ouvrir sur ce qui se passe autour d'eux et de ne pas hésiter également à demander en accord avec son établissement scolaire à réaliser des mini-stages en entreprise pendant la période des vacances scolaires. Les établissements peuvent être habilités à faire ces mini-conventions de stage et moi je les recommande fortement.
Oui, alors il y a le stage de troisième aussi, qu'on regarde parfois un petit peu de haut, mais qui est intéressant pour certains élèves parce que alors certains choisissent la facilité d'aller dans leur ancienne école primaire, donc comme ça occupe un peu, mais d'autres vont vraiment voir ce qui s'y passe. C'est vraiment c'est intéressant de se confronter à la réalité de la vie professionnelle.
C'est vrai que ça permet, enfin, l'immersion professionnelle permet aux jeunes de mieux prendre conscience, effectivement.
Absolument.
Et puis aussi, on utilise beaucoup l'ONICEP, qui offre beaucoup de documentation papier, mais aussi de documentation à ligne. C'est vraiment très intéressant. Il y a plein de fiches métiers, il y a des petites vidéos, il y a plein de petites choses. Et quand on me demande, quand on pose des questions sur le bûcheronnage ou des choses comme ça, alors moi, je suis complètement dépourvu. Et on va faire des recherches avec les gamins là-dessus. Et bon, j'apprends autant de choses qu'eux, hein, mais c'est vraiment une mine d'informations. C'est vraiment une très, très bonne ressource à conseiller. Et c'est très fiable toujours.
D'accord. Merci Jérôme pour ton témoignage. Merci. Bienvenue à Madame Brac, qui est directrice du campus connecté d'Aubenas et qui a ouvert ses portes cette année.
Bonjour à tout le monde. Il y a déjà un campus connecté qui existait à Privas l'année dernière, qui a ouvert en 2019. Voilà, donc les campus connectés en France, actuellement, on arrive à 40 campus connectés. L'année prochaine, on parle même de 70 campus connectés sur le territoire, donc ce qui est assez important. Et c'est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Donc, au campus connecté, on peut suivre donc ses études supérieures sans être isolé. On bénéficie d'un emploi du temps adapté de 18 heures à 25 heures de présence hebdomadaire. Donc, on signe un contrat à l'entrée du campus connecté. Chaque étudiant choisit son emploi du temps en fonction de ses contraintes. Donc, chaque étudiant a accès à des postes individuels équipés d'un PC portable, donc qu'il peut emmener chez lui pour travailler. Il y a aussi des temps de suivi individualisés avec le coach. On fait aussi des temps collectifs, des ateliers de méthodologie, comment faire un emploi du temps, on fait des conférences, voilà. Et on a aussi un partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes, donc il y a l'accès aux ressources numériques de la bibliothèque universitaire. Alors, les étudiants que nous recevons au Campus Connecté ont différents profils. On a pas mal de bacheliers. Il y a aussi des étudiants en reprise d'études, des étudiants qui ont fait une année à l'université, qui ont échoué et qui se réorientent. Mais il y a aussi des étudiants qui ont commencé en présentiel et qui passent en distanciel. Donc, par exemple, j'ai un étudiant qui est en licence 2 d'histoire, une étudiante qui est en licence 3 de sciences de l'éducation. Et on peut avoir aussi des étudiants ou des salariés qui sont en reconversion professionnelle pour une licence pro, un diplôme universitaire, une VAE. Voilà.
Je vois que Sylvie a une question.
Qui accompagne ces jeunes pratiquement dans les campus connectés? Est-ce qu'il y a des professeurs qui les accompagnent? Voilà.
Non, alors il n'y a pas de professeurs. Les jeunes sont donc en formation à distance, donc ils ont des contacts. Alors, c'est souvent par mail, parfois ils ont aussi des cours en vidéo, ça dépend des formations. Après, c'est donc dans les campus, ce sont les coachs, donc moi à Aubenas, un collègue, donc Ali Axen qui est à Priva, ce sont nous qui accompagnons les jeunes. Donc on est plus là pour une aide méthodologique.
Alors, nous accueillons Monsieur Florian Cross, qui est directeur du groupe L'Occitane à La Gorse et représentant aussi de la France Une Chance, qui va donc nous parler aussi de l'inclusion.
Alors, moi, j'ai 40 ans. Je suis né à Lambesc, dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Donc, effectivement, je suis pas ardéchois, mais j'ai été très bien accueilli en Ardèche. Et puis, j'ai fait mes études au fur et à mesure, un bac S. Ensuite, je suis parti à Saint-Étienne pour faire une prépa bio parce que j'aimais bien la bio. Ensuite, je suis monté à Nancy après avoir fait des concours pour une école d'agroalimentaire. Et là aussi, il a fallu décider, est-ce que je fais de l'agroalimentaire ou de l'agronomie? Donc, je suis parti sur l'agroalimentaire et j'ai eu la chance, directement à la sortie de l'école, d'intégrer une entreprise qui est Nestlé et qui m'a formé pendant 7 ans à différents métiers. J'ai pu faire de la qualité, de la maintenance, de la production, donc c'était très intéressant. Et puis, au bout de 7 ans, je me suis dit que je voulais revenir dans le sud de la France. Il y a une boîte qui s'appelle le groupe L'Occitane, et qui est une boîte de cosmétiques, qui me proposait de revenir du côté de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Donc, je suis parti là-bas. J'ai fait 3 ans de production et de chantier, parce qu'il y avait pas mal de changements dans l'entreprise. Et au bout de ces 3 années, pareil, des nouveaux challenges, nouveaux défis. On m'a proposé de partir au Brésil, monter un labo de R&D, de recherche et développement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir crapahuter à travers l'Amazonie pour identifier de nouvelles plantes, des nouveaux actifs, des nouvelles formules. Donc, c'était génial. 2 ans plus tard, on m'a renvoyé à Manosque pour faire de nouveau 3 ans directeur d'usine. Et puis, il y a 2 ans de là, on m'a appelé en Ardèche, toujours dans le groupe L'Occitane, pour m'occuper de l'usine qui est en Ardèche. Tout ça pour vous dire que déjà, rien n'est écrit à l'avance, qu'on peut faire beaucoup de choses si on a des opportunités qui se présentent. C'est important d'avoir des opportunités. On peut avoir beaucoup de qualités et puis ne pas avoir les chances qui s'ouvrent à soi. Et puis, à l'inverse, avoir plein de choses et ne pas avoir certaines qualités. Voilà, tout est possible. C'est pour vous dire, je reste sur ce principe de tout est possible, de travailler à l'international comme de travailler et de rester s'épanouir en Ardèche. Et ça, c'est un choix que chacun doit faire. Et pour cela, effectivement, je vais vous présenter un processus que le gouvernement pousse, à travers lequel les entreprises se proposent de faciliter justement l'accès à l'emploi pour différentes catégories, dont les étudiants, les alternants, mais pas que. Je vous présente en quelques minutes le groupe L'Occitane. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on développe, on fabrique et on commercialise des produits cosmétiques utilisant des ingrédients d'origine naturelle. Aujourd'hui, les entreprises ne choisissent plus des gens qui ont soit une expérience, soit des compétences, parce que ça, on peut l'acquérir. Mais ce qui est important, c'est de partager les mêmes valeurs. Donc, l'entrepreneuriat, c'est il faut essayer. Tu as le droit d'échouer, mais il faut essayer. Le pire, ça serait de ne pas essayer. Et une fois que tu as échoué, parce que ça arrive d'échouer, ben, il faut apprendre de ses échecs. L'autre, c'est qu'en équipe, pour construire des choses, le travail en équipe est assez formidable. En tout cas, c'est les valeurs que l'on porte dans l'entreprise. L'exemplarité, et être exemplaire, c'est aussi dire les choses et montrer quand ça va et quand ça ne va pas. Et authentique, nous, on est une petite boîte familiale. On est dans 90 pays. On fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Et pour autant, on reste une toute petite structure. Et ça aussi, il faut se le rappeler. Voilà notre fonctionnement. Et maintenant, je vais faire un petit focus sur l'Ardèche et sur l'usine que je gère actuellement. Nous, on a un contexte très atypique sur lequel on est très, très fiers. C'est qu'on est en plein milieu du parc Natura 2000. Et autour, on n'a que des forêts, des champs. Et c'est assez agréable parce que, en fait, si on veut vendre des produits utilisant des ingrédients d'origine naturelle, il faut que nos usines soient également en lien avec ce que nos produits mettent en avant, c'est-à-dire l'environnement. Et on a reconstruit une usine qui est totalement éco-conçue et totalement respectueuse de l'environnement. Donc, c'est difficile de s'implanter en Ardèche, soyons très honnêtes. On a un déficit hydrique et là aussi, quand tu produis des produits cosmétiques, tu as besoin d'eau. Tout ça, ce sont des challenges. On travaille beaucoup avec la Comcom, avec le département, avec l'inspection du travail pour justement mettre en avant des moyens pour véhiculer les collaborateurs. Donc, on a des systèmes de navettes, par exemple, qui font une tournée et qui vont chercher les différents collaborateurs à 5h du matin, à 13h et à 21h, puisqu'on travaille avec des équipes en 3-8. Tout ça pour vous dire que travailler en Ardèche, c'est encore écrit à certains endroits l'utopie ou la mort. Des contraintes naissent l'innovation, naissent les opportunités. Donc, on a investi sur ce site et finalement, on continue à investir. Tous les 5 ans, on investit environ 30 millions d'euros. Donc, on y croit. On croit aux compétences des gens qui sont dans le coin et on a une ambition. Nous, ce que l'on veut, c'est impulser un nouveau modèle industriel qui connectera les hommes, la nature et la performance. Donc, il faut qu'on aille vers le digital, il faut qu'on aille vers le 4.0. Donc, on a besoin de métiers. On a besoin de nouveaux métiers, hein, de la gestion de la data, on a besoin de gens qui font du cobot, des robots, on a besoin de tout ça pour maintenir des usines performantes, mais pas que. On a besoin aussi de gens qui soient totalement en lien avec la nature. Nous, aujourd'hui, on va dire que 95% de notre population, c'est une population issue du bassin d'Aubenas et ça se passe très bien puisque déjà depuis une quarantaine d'années, on développe cette usine et on continue à la développer. Voilà pour la partie usine Melvita qui se situe à la Gorce. Je vais enchaîner avec comment l'entreprise vient en aide ou favorise l'inclusion et puis l'aide aux étudiants. Eh bien, l'entreprise fait partie d'une entreprise inclusive. Donc, ça s'appelle effectivement La France, une chance. Et dans La France, une chance, c'est les entreprises s'engagent. Donc, sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale, depuis quelques années déjà, qui est repris par la préfecture et l'inspection du travail, certaines entreprises, dont Melvita, sont appelés à travailler et puis à prêcher la bonne parole auprès des autres entreprises. Les entreprises sont un maillon important pour que chacun puisse trouver sa place dans la société. On veut que l'entreprise soit un point d'entrée pour soit favoriser le premier pas dans l'emploi, soit aider des gens qui ont été décrochés, soit de l'éducation nationale, soit décrochés pour des accidents de vie. Et on se dit que l'entreprise est un bon moyen de permettre à ces gens-là qui ont décroché ou qui sont des primo-accédants dans l'emploi, en fait, d'y accéder. Donc, en fait, on a une seule ambition avec l'inspection du travail, c'est une démarche qui est globale. On veut que l'entreprise facilite cette accessibilité à l'emploi. Pour cela, on a 3 finalités. 1, on veut faciliter la découverte de l'entreprise. L'autre, c'est la passerelle vers l'emploi durable. On a différents types de passerelles qui existent. Les premières passerelles, ce sont des stages, des alternances, etc. On a le droit d'essayer. Il n'y a aucun problème, au contraire. Et ça, il y a différents moyens de le faire. Il y a des parrainages, il y a des stages, il y a de l'alternance, il y a des CDD, il y a des CDI. Il y a plein de choses qui le permettent. Et puis ensuite, on veut accompagner les personnes habitant dans des territoires prioritaires. On doit faciliter aussi l'insertion pour les gens qui ont des handicaps ou les gens qui sont issus de quartiers prioritaires. Donc voilà les 3 points qui sont co-construits entre l'éducation nationale avec le gouvernement et les entreprises comme par exemple Mécélec ou bien Melvita.
Donc vraiment bravo à vous, bravo à tout ce que vous faites aussi pour l'inclusion.
Et puis on va accueillir alors Mme Laval qui a ouvert une épicerie communale à Saint-Étienne-de-Ludarès et qui va donc du coup nous raconter son parcours. Bonjour Mme Laval.
Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Coralie, j'ai 26 ans. Donc, effectivement, j'ai repris une épicerie au 1er septembre, donc en Ardèche. Voilà, donc à Saint-Étienne-de-Ludarès. Donc, j'ai fait avant ça 7 ans en grande distribution. Voilà, donc j'ai des diplômes en commerce et en coiffure aussi. dire pratique pour le côté social. Et donc, en fait, on a toujours aimé avec mon conjoint les petits villages, tout ça, puis la montagne. Donc, on est vraiment bien ici, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installé, du coup, à Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès, pour faire vivre encore le village aussi, parce qu'il faut garder les petits commerces, tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, même en étant jeune. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au début, tout ça, mais bon, ça se fait facilement.
Par quelle structure vous avez été accompagnée, justement, pour monter votre épicerie?
Alors, la CCI. Après, j'ai été accompagnée aussi par un monsieur qui s'occupe des communautés des communes. Et après, pareil, donc, d'autres, des comptables, des choses comme ça aussi dans le secteur, y compris au niveau de la mairie aussi, du village, qui nous a bien accompagnés. Et après, en étant jeune, on a le droit à pas mal d'aide aussi, donc ce qui aide vraiment pour se lancer, quoi.
Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune qui aurait envie de se lancer, justement, dans une entreprise et à quoi il faudrait qu'il fasse attention tout particulièrement lorsqu'il a envie de se lancer?
Ah ben déjà, il faut aimer le contact avec la clientèle, tout ça, donc ça, c'est primordial. Après, il faut aimer, voilà, il faut vraiment aimer les petits villages, des choses comme ça, parce que bon, une clientèle aussi, c'est pas mal de personnes âgées, donc il y a beaucoup d'entraide, il faut, voilà, il faut vraiment accompagner les gens, il faut donner à fond, quoi. Après, moi, j'ai quand même l'expérience quand même de la grande distribution, tout ça, donc, parce que pour se lancer, bon, ben voilà, il faut quand même un minimum, je pense, même les études, il faut en faire un petit peu aussi, qu'on peut pas se lancer, comme ça, après, vraiment, pas hésiter à se faire aider par les personnes, tout ça, parce que il y a plein de choses, quand même, ben voilà, en étant jeune, c'est un peu l'inconnu, quoi, hein. Il faut vraiment avoir l'envie, quoi, ça, c'est sûr que si on n'est pas motivé derrière, que voilà, il faut vraiment être sérieux, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, d'être devenir en milieu rural? Parce qu'on pense beaucoup à l'entrepreneuriat, peut-être dans des villes un peu plus grandes.
Moi, j'étais pas très loin. J'étais du coup à Langogne, donc côté Lozère, on va dire. Parce que c'est tout limitrophe. Hein. Là, on est vraiment en Haute-Loire, Ardèche, Lozère. On était vraiment sur un petit village, donc Pradel. Parce qu'il faut, quoi. Le problème, c'est que les petits villages comme ça, ben, vraiment, ça se meurt, quoi. Hein. Si vous enlevez les commerces, tout ça, il n'y a plus rien. Les gens vont plus sur les grandes villes, alors qu'on est très bien ici, quoi. On est tranquille, hein. Il faut dire ce qui est. On est vraiment bien. On est beaucoup touristique aussi, hein. Il y a quand même du monde, hein. Faut pas croire que tout le monde se dit c'est isolé, mais en fait on a beaucoup de monde, quoi. Donc c'est vraiment agréable, quoi.
Je crois qu'on a Manon qui nous a rejoint aussi pour nous faire part de son expérience. Alors oui. Commerce, je sais pas si c'est le mot puisque c'est du maraîchage, c'est ça?
C'est ça, ouais. Donc bonjour, je m'appelle Manon. Donc nous on est installés sur Asté, quasiment sur le plateau ardéchois, sur les contreforts du plateau. Et on est producteur de fruits rouges installés depuis l'année dernière. On fait de la fraise, de la framboise, de la myrtille sauvage, de la myrtille cultivée, du blé, de la canneberge. Et cette année, on lance en plus un petit atelier de maraîchage, donc de la salade, des épinards, des carottes. Voilà, on prévoit aussi dans le futur d'avoir un petit atelier au vin avec une trentaine de mères pour faire un peu d'agneau.
Et quel parcours vous avez fait pour vous diriger vers votre activité actuelle?
Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique et ensuite, j'ai fait un BTS de production horticole où je me suis spécialisée en maraîchage, enfin en apprentissage. Et après, on est parti 3 ans en voyage, 1 an en Australie et 2 ans en Nouvelle-Calédonie où j'ai là-bas fait une licence de biologie environnement. Et voilà, on avait déjà le souhait de s'installer. Donc, en rentrant, on a cherché une ferme et on a mis 2 ans pour la trouver.
D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent se lancer là-dedans? Qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre pour qu'ils se disent voilà, pour moi, le maraîchage, c'est possible?
Bah, le retour à la terre est intéressant parce que des paysans, il y en a de moins en moins. Par exemple, sur Asté, c'est la première installation de paysans depuis 50 ans, au moins. Et on est les seuls exploitants agricoles sur la commune. Donc, c'est quelque chose qui est quand même recherché et tout le monde mange. C'est quand même un métier qui est porteur pour moi. Le gros obstacle qu'on a eu, c'est au niveau administratif, parce qu'on a fait des demandes de subventions pour s'installer, parce qu'on n'avait pas assez de trésorerie, quoi. Et on a quand même mis 2 ans à boucler notre dossier, qui est aujourd'hui toujours pas bouclé. Donc, c'est quand même administrativement, il faut être prêt à galérer et à vraiment vouloir s'installer, parce que c'est difficile.
Donc, vous avez commencé votre installation et vous la poursuivez, quand bien même les démarches administratives ne sont pas encore finies pour l'instant?
Oui, parce qu'on a fait un prêt et qu'on a assez de trésorerie pour l'instant survivre, quoi. C'est un problème, ouais. C'est que c'est très long à débloquer des fonds, à bouger toute cette grosse machine de la chambre d'agriculture. C'est très long. Mais en plus, enfin, nous, on est un peu sur un cas particulier parce qu'au niveau du plateau, c'est beaucoup des repreneurs, des gens qui reprennent l'exploitation de leurs parents. Nous, c'est une création complète. Donc, on se heurte en plus à des problèmes temporels de, ben, il faut qu'on défriche une forêt avant de planter, quoi. Voilà. Mais bon, c'est génial. On fait ce qu'on veut tous les jours.
Pourquoi vous avez choisi la spécialité petits fruits ?
Parce qu'on est en montagne, donc en pente. Donc, il fallait qu'on trouve un produit à haute valeur ajoutée qui nous permette sur un petit espace de gagner notre vie, quoi. Et le petit fruit s'y prête pas mal. Et en plus, on est en altitude, on est à 1200 mètres. Donc, il fallait aussi des choses qui ne craignent pas trop le gel, adaptées à notre terrain, à notre territoire.
Quels sont vos clients principaux aujourd'hui ? Est-ce que c'est surtout de la vente directe ? Est-ce que vous vendez aussi à d'autres structures ?
Alors, cette année, on n'a fait que de la vente directe. On a vendu aux restaurateurs et pâtissiers, principalement, même 100%. Après, l'année prochaine, on rentre sur le marché de la Chapelle Graillouse et de Masse-Méjean, à Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès.
On a une question de Sylvie également qui vous demande dans quelle mesure votre expérience internationale vous aide-t-elle dans votre entreprise aujourd'hui ?
Alors, tout le temps, parce que d'être allé à l'étranger, ça amène un peu la débrouille quand même. Surtout quand on arrive au départ dans un pays anglophone et qu'on ne parle pas anglais. Donc, il faut s'habituer un peu à tout ça. Et en plus, on est parti donc 3 ans, donc il a fallu qu'on travaille pas mal. Donc, on s'est fait pas mal d'expériences professionnelles dans plusieurs fermes. Je suis partie avec mon compagnon qui est aujourd'hui conjoint collaborateur. Donc oui, ça sert d'aller voir un peu chez les autres parce qu'ils font des trucs bien aussi.
Est-ce que vous comptez recruter des jeunes, peut-être, effectivement ? Ça, c'est une autre question sur la formation professionnelle ou sur l'apprentissage, effectivement. Est-ce que plus tard, vous comptez peut-être faire découvrir vos activités en stage ou peut-être prendre des apprentis dans des lycées agricoles qui viendraient sur votre exploitation pour apprendre le métier ?
Oui, alors complètement, c'est quelque chose auquel on pense, même du woofing, même parce qu'effectivement, en saison, on a un besoin de personnel conséquent sur une période courte, mais c'est les vacances scolaires, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose auquel on pense, c'est clair.
Merci à tous.
Merci à tous d'avoir participé au succès de ce forum. C'est grâce à vous tous, donc merci beaucoup en tous les cas.
Donc, nous sommes satisfaits de cette première édition qui a bien fonctionné. On a eu 2900 personnes au total connectées grâce au Facebook Live. Donc, c'était un premier pas. Nous espérons donc faire la deuxième édition et puis faire d'autres projets intermédiaires qui sont en cours de création.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'un forum Jeunesse 07 sur lequel il y a plein d'intervenants qui ont pu vous donner des informations ?
Je ne connaissais pas le forum déjà. Et je trouve que c'est bien qu'ils parlent de trucs comme ça pour les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire.
Moi, je ne connaissais pas le forum non plus, donc je vais dire la même chose.
Alors, je ne connaissais pas ce forum, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir certains avis de certains étudiants qui partaient faire leurs études ailleurs, dans d'autres pays.
J'ai bien aimé parce que je ne connaissais pas et ça m'a fait découvrir le forum.
Les enregistrements que vous avez vus, qu'est-ce que vous en retenez et est-ce que tu peux me dire ce que tu as découvert là ?
Dans les témoignages que j'ai vus, il y avait des professeurs.
Il y avait des présidents d'associations et des patrons d'entreprises.
Et donc, qu'est-ce que vous retenez de ce visionnage ?
Qu'avec la crise sanitaire, aller faire les études dans d'autres pays, c'est plus compliqué que sans.
Moi, j'ai retenu qu'en Amérique, c'était plus rentable de créer un compte bancaire américain que de garder son compte français.
D'après ce que j'ai entendu, il y avait des échanges d'étudiants qui durait jusqu'à un an. C'était un échange d'étudiants pour aller dans un autre pays que le sien. Par exemple, ils avaient parlé d'un Espagnol qui était venu en France pendant un certain temps pour étudier.
L'association Une France, une chance aide les jeunes à trouver du travail plus facilement.
Et les intervenants qui étaient présents par visioconférence, évidemment, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des domaines et des gens que vous aviez invités ?
Oui, donc on avait invité une association de Maria Paz qui s'appelle Europa, qui aide les jeunes apprentis justement à faire leurs études à l'étranger, à trouver donc des entreprises à l'étranger, mais aussi tout un réseau humain pour qu'ils puissent s'adapter facilement. On avait aussi le dispositif La France, une chance, donc les entreprises, les industries ardéchoises qui font partie de ce dispositif, donc qui aident les jeunes. Notamment, on a eu le témoignage de Monsieur Cross, le directeur de Melvita, qui nous a présenté du coup l'entreprise. Et on avait aussi le campus connecté en Ardèche, à Aubenas, qui s'est développé cette année. Voilà, on avait tout un tas de personnes, d'associations, d'entreprises qui étaient là pour vraiment promouvoir la jeunesse en Ardèche.
C'était un reportage sur InfoRC avec des extraits d'échanges d'une passionnante visioconférence avec ce forum jeunesse. Tu feras quoi dans 2 ans ?